Bonjour, je suis avec Philippe Dupichot. Nous allons voir dans cette vidéo que la réforme du droit des contrats, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 10 février 2016, est avant tout une réforme de consolidation et de clarification. Alors, nous allons prendre quelques exemples pour illustrer cela, pour illustrer le fait que, pour beaucoup, la réforme a consisté à prendre l'acquis jurisprudentiel lorsqu'on estimait qu'il était utile, qu'il était bon, et à en faire, à le consolider, à en faire des règles du Code civil. Nous avons déjà vu que cela permettait de rendre notre droit plus accessible, plus clair. Alors, on peut prendre un premier exemple de cette clarification, on peut le prendre avec les définitions. Il y avait déjà dans le Code civil de 1804 des définitions, une volonté du législateur d'être pédagogue, mais on va trouver encore plus de définitions, on va avoir quelques modifications dans les définitions existantes et on va trouver encore plus de définitions. Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces définitions?
Alors, tu as raison, Bruno. Les définitions entrent dans la loi plus que jamais. On peut commencer par prendre l'exemple de la définition du contrat. Le contrat qui se substitue au terme de convention se voit doté d'une définition à l'article 1101 du Code civil, accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. On va trouver également, et peut-être surtout, des définitions des différentes classifications des contrats, classifications qui étaient déjà dans le Code civil pour beaucoup d'entre elles, contrat synagmatique, contrat unilatéral, contrat gratuit, contrat à titre onéreux, contrat commutatif, contrat aléatoire, et d'autres définitions qui font leur entrée dans le Code civil, par exemple la distinction des contrats consensuels, réels et solennels, très connus, ou deux autres classifications dont tu vas, je crois, nous dire quelques mots.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion. Alors, contrat de gré à gré, c'est le contrat qu'on a négocié, dont on a discuté le contenu. Contrat d'adhésion, c'est le contrat dans lequel on a accepté le contenu. Alors, il y a une référence aux conditions générales, mais l'idée, c'est que c'est le contrat dont on a accepté le contenu sans pouvoir le discuter.
Oui, on pense aussi ici, je crois, au mot de Carbonnier qui est resté célèbre, le contrat d'adhésion, c'est celui auquel on adhère plus qu'on y consent.
Voilà, oui, c'est très juste. Et l'idée, c'est que dans ce type de contrat, eh bien, comme on n'a fait finalement que dire oui sans pouvoir discuter le contenu, on va en déduire des conséquences. Une des conséquences, par exemple, c'est que c'est dans ce type de contrat que l'on va avoir un contrôle par le dispositif de remise en cause des clauses abusives, sur lequel nous reviendrons par la suite. Mais voilà, ou des règles d'interprétation particulières. Voilà, je ne sais pas si tu veux en
Oui,
dire un mot.
l'interprétation va se faire à l'encontre de celui qui a prédéterminé à l'avance les stipulations faisant l'objet du contrat d'adhésion. C'est une règle d'interprétation. Et puis, on peut, je crois, donner comme dernier exemple de classification la distinction des contrats à exécution instantanée et des contrats à exécution successive, qui se trouve définie à l'article 1111-1 du Code civil. Définition d'ailleurs dont on peut peut-être discuter, puisqu'elle indique que le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Alors je crois, Bruno, que tu avais justement peut-être quelques remarques sur cette nouvelle définition.
Oui, tout à fait, Philippe. L'idée, c'est qu'un contrat à exécution successive, traditionnellement, c'est celui dont les prestations se renouvellent dans le temps. On prend le bail, par exemple, comme exemple de ce type de contrat. Là, quand on parle de contrats dont les prestations sont échelonnées dans le temps, ça voudrait dire que des contrats pour lesquels on a une prestation qui s'exécute sur un long trait de temps, mais une prestation qui est en réalité unique, c'est-à-dire la construction d'une usine par exemple, deviendrait des contrats à exécution successive, avec comme conséquence le fait que si le contrat est mal exécuté, on aura plutôt à ce moment-là une résiliation, et donc seules les tranches mal construites verront l'effet du contrat disparaître par la résiliation, plutôt qu'une résolution qui entraînerait une remise en cause complète du contrat. Donc voilà une définition qui a été modifiée de manière, enfin définition qui était une définition doctrinale, mais qui a été modifiée par la réforme issue de l'ordonnance.
Et donc par une acception en fait assez large, finalement, je crois, du contrat à exécution
successive, parce qu'il n'y a plus de succession, en fait, mais un échelonnement de la prestation. Alors, on voit dans cet aspect réforme de consolidation, de clarification, on voit rentrer dans le Code civil, par exemple, des textes sur l'offre et l'acceptation, sur la rencontre de l'offre et de l'acceptation.
C'est vrai qu'aux articles 1113 et suivants se trouve, je crois, comblé un manque criant dans le Code civil de 1804. Parce que le Code civil de 1804 ignore de ce moment clé qu'est la conclusion du contrat. Il ne comporte ni définition de l'offre, ni définition de l'acceptation. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un vocabulaire anglo-saxon a largement investi cette matière où l'on parle de LOI, Letter of Interest, Preliminary Offer, offre préliminaire, offer non-binding, offre non contraignante, qui, au regard, je crois, du droit civil, sont parfois des aberrations, puisque, ainsi que cela est défini dorénavant, l'offre suppose, pour être une offre, d'être précise, ferme et d'indiquer la volonté de son auteur, d'être liée en cas d'acceptation. Quant à l'acceptation, elle doit évidemment indiquer la volonté de l'acceptant de conclure le contrat, et l'offre et l'acceptation doivent se rencontrer parfaitement, sans quoi une acceptation avec réserve serait une nouvelle offre. Et l'offre qui ne serait pas ferme ne serait qu'une invitation à entrer en pourparlers, les pourparlers faisant eux-mêmes l'objet de nouveaux articles dans le Code civil qui s'intéressent à cette période précontractuelle. C'est nouveau et je crois qu'il faut s'en féliciter.
Oui, on peut dire un mot d'ailleurs de cette LOI, Letter of Interest ou Letter of Intent, on entend parfois, lettre d'intention. L'idée, c'est que quand des parties sont en négociation, elles peuvent déjà vouloir mettre dans un document le fait qu'elles sont intéressées à l'idée de conclure un contrat à telle condition ou qu'elles ont l'intention de conclure un contrat à de telles conditions, mais elles vont vouloir insérer une clause que l'on appelle non-binding, clause non liante, anglicisme, clause par laquelle elles disent qu'il y a déjà leur intention de conclure le contrat, mais elles ne sont pas engagées dans le contrat. On peut se demander comment cela doit être analysé en droit français, parce qu'il y a finalement peut-être une rencontre des consentements, il peut y avoir des conditions, il peut y avoir des éléments qui ajoutent le fait que finalement il n'y a pas encore eu rencontre des consentements. Mais parfois on a déjà, pour une vente par exemple, l'identification du bien, une identification du prix, donc on pourrait déjà avoir la vente, mais il est dit que non, on n'est pas encore engagé contractuellement. Alors, le nouveau droit des contrats n'appréhende pas la LOI, mais on peut quand même se demander quel serait son traitement, parce que c'est une institution qui est fréquemment utilisée en pratique. Pour terminer, nous allons évoquer quelques autres points qui sont des solutions de la jurisprudence qui ont été consacrées. On a parlé des pourparlers, l'offre et l'acceptation. On peut évoquer aussi la notion de violence économique, ou celle de réticence dolosive.
Alors effectivement, la réticence dolosive et la violence économique font leur entrée dans le Code civil. S'agissant de la violence économique, c'est un point qui a été assez controversé. Chacun se souvient ici du précédent d'une décision de la Cour de cassation Larousse-Bordas. Donc cette consécration de la violence dite économique n'est pas tout à fait nouvelle. Et elle est à la fois plus générale que dans l'arrêt Larousse-Bordas, parce qu'il ne s'agit pas que d'une contrainte d'ordre économique, ça peut être une contrainte d'un autre ordre, et le rapport au président de la République insiste sur ce point, mais en même temps, elle est plus resserrée que la jurisprudence Larousse-Bordas, puisqu'il y a des conditions, il faut avoir voulu obtenir un avantage excessif par un abus de la dépendance économique de l'autre partie. S'agissant de la réticence dolosive, on est en revanche en terrain parfaitement connu, puisqu'on va retrouver à l'article 1137 du Code civil les trois temps de la jurisprudence qui a considérablement, on le sait, élargi le dol. Le premier temps, c'était, rappelons-le, les manœuvres, l'escroquerie, la fraude. Le deuxième temps, c'était le simple mensonge. Et le troisième temps, c'est la réticence, c'est-à-dire la dissimulation intentionnelle afin de tromper l'autre partie. On va trouver cet apport dans le nouveau Code civil qui, là encore, clarifie, consolide, synthétise des situations prétoriennes bien connues.
Bien, on peut évoquer aussi le principe d'exécution forcée en nature qui est consacré, mais qui était déjà en réalité reconnu comme principe par la jurisprudence. Et voilà, nous pouvons bien dire que c'est une réforme de consolidation et de clarification. Philippe, je te remercie.